Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Son nom est entré dans l'histoire avec un mot et un seul, un mot de 5 lettres, un mot grossier.
Écolo.
Non, grossier pour tout le monde, pas uniquement pour vous Stéphane. Le toujours très poli Stéphane Bern nous raconte un général qui aurait dit merde aux Anglais, Pierre Cambronne.
Si certaines dates ont marqué l'histoire de France, comme le 11 novembre ou le 14 juillet, il y a des jours bénis qui l'ont même marqué par deux fois. C'est le cas du 18 juin. Quand on pense au 18 juin, on pense naturellement au célèbre appel que le général de Gaulle a lancé depuis le micro de la BBC en 1940.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Mais comme l'histoire a parfois le sens de l'humour, il se trouve que le 18 juin, c'est aussi le jour qui signe la défaite et la dernière grande bataille de Napoléon Ier, perdu face à ces mêmes Anglais en 1815 à Waterloo. Choisir le jour d'une des défaites les plus marquantes de l'histoire du pays pour appeler ses compatriotes à continuer le combat ne manque pas de sel. Quoique. Oui, quoique, parce que si Waterloo a bien enfoncé le dernier clou dans le cercueil du Premier Empire, la journée reste pourtant glorieuse grâce à un homme et à un mot. L'homme, ce n'est pas Napoléon Bonaparte, mais l'un de ses fidèles, général et baron d'Empire. Le mot, c'est celui qui porte son nom, un mot de 5 lettres que nous utilisons tous et qui marque aussi bien la colère et l'exaspération que l'impatience, la douleur ou le mépris. Merde. Pierre Cambronne, en répondant vertement aux Anglais qui lui demandaient de se rendre, a donné à Waterloo une autre place dans la mémoire collective, comme si par la grâce d'un mot ordurier, le général avait en quelque sorte condensé une certaine idée du panache. Victor Hugo ne s'y est pas trompé en racontant cette histoire bien plus tard dans Les Misérables. Dans le second tome, publié en 1862, il écrit ceci. « Faire du dernier des mots le premier en y mêlant l'éclair de la France, perdre le terrain mais garder l'histoire après ce carnage, avoir pour soi les rieurs, c'est immense. » Victor Hugo a raison. Le mot de Cambronne est un mot immense, un mot qui fait rentrer la grossièreté dans l'histoire de France par la grande porte, mais c'est aussi un mot qui pose problème pour la bonne et simple raison que personne ne sait si Cambronne l'a vraiment prononcé. Et le plus étonnant, c'est que l'histoire de ce fameux merde, lancé ou non aux Anglais, a fini par virer à l'affaire d'État. Pour mener l'enquête, il faut remonter au 18 juin 1815. Ce qui se joue à Waterloo, pas très loin de Bruxelles, donc, c'est tout simplement le sort du Premier Empire. 4 mois plus tôt, l'empereur est revenu de loin, en l'occurrence de l'île d'Elbe, où les royaumes d'Europe l'avaient exilé une première fois en 1814. Mais Napoléon n'avait pas dit son dernier mot. Le 1er mars 1815, c'est le début des 100 jours, le vol de l'aigle. Revenu d'exil, Napoléon débarque en Provence, rassemble ses fidèles et fonce sur Paris. En 3 semaines, il a repris le contrôle du pays. Mais en 3 mois, toute l'Europe se soulève à nouveau contre lui dans une nouvelle coalition jusqu'à cette bataille décisive du 18 juin à Waterloo. D'un côté, 68 000 hommes, dont 25 000 Anglais commandés par Wellington. De l'autre, 75 000 Français, dont un homme, le général Pierre-Jacques-Étienne Cambronne. En 1815, Cambronne a 45 ans et toute sa carrière, ou presque, se confond avec celle de Napoléon. Cambronne a le parcours typique de cette noblesse d'empire, sortie du rang, celle qui a gagné ses titres et ses galons sur tous les champs de bataille d'Europe. Nantais de naissance, il a commencé comme grenadier en Belgique, puis en Vendée pendant la Révolution. Son courage et sa fougue ont fait le reste. Et il a été de toutes les campagnes, de toutes les victoires. Il est aux premières loges dans l'armée des Alpes, à la bataille de Zurich. Il s'illustre en Suisse et en Bavière, puis à Iéna. Il est de la campagne de Pologne. Il est aussi de la guerre d'Espagne. Colonel, baron, officier de la Légion d'honneur, officier dans la garde impériale et bientôt général, Cambronne amasse les honneurs au même rythme que les faits d'armes. Et quand les choses se gâtent, il est encore là. Sur l'île d'Elbe, c'est lui qui dirige la petite garde dont l'empereur dispose encore. Au début des 100 jours, il est de ceux qui font voile vers la Provence. Et à Waterloo, il est encore là au soir du 18 juin 1815, quand les choses tournent mal. C'est peut-être lui le chanois. Vers 19h30, la bataille bascule avec l'arrivée des troupes prussiennes. Soulagées, les forces anglaises de Wellington concentrent un déluge de feu sur les régiments français. Dans une tentative désespérée pour percer le centre anglais, Napoléon Bonaparte fait donner la garde. Grenadiers et chasseurs à pied, les derniers grognards en somme s'engagent pour un ultime baroud d'honneur. Mais l'attaque est repoussée. Les immortels reculent pour la première fois. Il reste aux chasseurs de la vieille garde, commandés par Cambronne, de résister jusqu'au dernier pour protéger l'armée et l'empereur. L'armée anglaise les mitraille à bout portant. Dans la confusion, Cambronne est touché à la tête, tombé au sol, cerné par les hommes du général anglais Colville. Il lance alors son fameux « merde » ou pas, parce qu'il y a deux versions de ce qu'a dit Cambronne. La première, c'est le mot de cinq lettres. La seconde, c'est « la garde meurt et ne se rend pas ». Cela dit la même chose, mais dans une version plus élégante. Et c'est en tout cas celle que publie quelques jours après le journal Général de la France, l'un des grands quotidiens du pays, dans un article qui rend un hommage appuyé au courage du dernier carré des grognards. La formule est belle et on se la répète partout dans une France qui se console un peu de la défaite en saluant ce général qui envoie l'ennemi se faire voir au moment suprême. Qu'il ait dit merde ou qu'il ait dit autre chose, tout le monde néglige un détail. Sans faire injure à son courage, non seulement le général Cambronne n'est pas mort, mais il s'est bel et bien rendu. Après quelques mois de détention en Angleterre, il a fini par rentrer en France où, changement de régime oblige, on l'a jugé pour trahison. Acquitté, il a repris le fil d'une carrière glorieuse avant de mourir en 1842 dans sa ville natale de Nantes. Quant à savoir ce qu'il a dit et à qui, l'affaire a pris une ampleur à peine croyable. Cambronne lui-même a toujours dit qu'il n'avait prononcé ni le fameux « merde » ni la version polie du « la garde meurt et ne se rend pas ». Le sujet avait d'ailleurs le don de l'agacer prodigieusement, à croire le journaliste Louis de Kergent qui raconte 20 ans après sa disparition, en 1862, le général s'emportait quelquefois avec violence, lui le plus doux et le meilleur des hommes, contre ceux qui voulaient à toute force et malgré lui, lui faire déclarer qu'il avait dit ce qu'il n'avait pas dit. Mais les démentis ne changent rien et le débat rebondit lorsque Victor Hugo publie Les Misérables et relaye à nouveau la thèse du mot de cinq lettres. Mais les symboles comptent et Napoléon III s'agace de voir qu'on répète partout cette vulgarité qui entache à ses yeux l'image de son oncle Napoléon Ier comme par ricochet. Alors, il lance carrément une enquête officielle et demande au préfet du Nord de faire toute la lumière sur cette histoire qui vire à l'affaire d'État. Ce brave préfet, M. Vallon, rend ses conclusions en juin 1862 après avoir interrogé un survivant de la vieille garde, Antoine Delot, qui confirme que c'est bien la version la plus noble qu'a lancé Cambronne aux Anglais et pas ce fameux merde qui fait un peu tache. Le seul problème dans tout ça, c'est qu'Antoine Delot n'a aucun moyen d'avoir entendu quoi que ce soit ce jour-là. Pour la bonne raison qu'il était grenadier et pas chasseur et qu'il se trouvait à plusieurs dizaines de mètres du carré commandé par Cambronne. Alors, oui ou merde, on ne saura jamais avec certitude, mais c'est bien la version courte qui est restée dans les mémoires. Et qu'on le veuille ou non, la langue de Molière est aussi et pour toujours celle du mot de Cambronne.
Europe 1, historiquement vôtre.